Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui a profondément marqué la ville de Jacksonville Beach, en Floride, une affaire très médiatisée qui concerne Jared Bridegan, un père de famille et employé exemplaire chez Microsoft. Si tu ne connais pas encore cette histoire, je t'invite à regarder cette vidéo pour la découvrir. Avant de plonger dans les détails de notre enquête du jour, on se penche 2 minutes sur la ville de Jacksonville Beach. Située au nord-est de la Floride et au départ nommée Pablo Beach, Jack's Beach, comme on la surnomme, compte 23 000 habitants. C'est une destination de vacances idéale, connue pour ses plages de sable blanc, ses bars, ses restos et sa super bonne ambiance. Jack's Beach, c'est surtout la plage, mais aussi la pêche, la randonnée, les promenades, le shopping, la bière et la bonne bouffe. Pourtant, derrière ces allures de carte postale se cache un taux de criminalité assez inquiétant. Selon le site neighborhoodscout.com, qui est une source très fiable, Jack's Beach a un taux de criminalité plutôt élevé par rapport à d'autres villes floridiennes de la même taille. D'après les statistiques, un crime se produit à Jack's Beach environ toutes les 12 heures, et en réalité, cette ville n'est pas si différente des autres villes américaines en matière de sécurité. Le taux de criminalité de la ville est assez représentatif de ce qu'on peut considérer comme la norme aux États-Unis. Mais pour la Floride, c'est un chiffre élevé. Donc maintenant que tu as une petite idée du cadre dans lequel s'inscrit notre histoire, prépare-toi à découvrir les détails troublants de l'affaire Jared Bridegan, une énigme qui va affecter de nombreuses personnes, une affaire qui soulève encore aujourd'hui plein de questions. Jared Galen Bridegan naît le 29 juin 1988 à Warrensburg, dans le Missouri. Ses parents s'appellent Gaylor et Joanne. Jared a une sœur, Ashley Jenkins, un frère, Adam, et sa grand-mère, Josephine Cress. Dès son plus jeune âge, Jared déménage avec sa famille à Jacksonville, en Floride, où il grandira au sein d'une famille qui le soutient et l'encourage. Il démontre une grande intelligence et une certaine sensibilité. Sa curiosité pour le monde et sa soif d'apprendre le mènent vers un parcours scolaire à la hauteur de ses ambitions. Il termine ses études secondaires à l'école d'art Douglas Anderson en 2007. C'est une école spécialisée en art, mais aussi en technologie. Le jeune homme ne s'arrête pas là, puisqu'il poursuit son expertise à la fac, et plus précisément à l'Université de la Vallée de l'Utah. Là-bas, il décroche un diplôme en 2014, consécration de ses recherches en médias numériques. D'ailleurs, il est spécialisé en production cinématographique. Ses premiers pas professionnels, il les fait en tant que designer UX chez Canopy. Ensuite, il accède au rang de directeur UX chez web.com. Pour information, un designer UX, c'est une personne chargée de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur sur un projet numérique, en général un site internet ou une application mobile. En gros, le rôle d'un designer UX, c'est de s'assurer que quand tu navigues sur un site internet, bah, tu ne te perds pas, que tout soit clair et facilement navigable et compréhensible. Jared va gravir les échelons petit à petit et il devient directeur technique chez Clean Simple Eats. Tous ses efforts le mènent à embrasser une carrière dans le domaine qui le passionne le plus, le numérique. Chez Microsoft, où il finit par être embauché, Jared est salué pour son expertise et son engagement, et c'est pour ça qu'il devient rapidement un modèle pour ses collègues. L'intitulé exact de son poste, c'est Senior Design Manager. C'est vraiment la réussite pour lui parce qu'il ne veut plus bouger de chez Microsoft, il se plaît vraiment là où il est. Côté personnel, il faut savoir que Jared est quelqu'un de très pieux, très croyant en Dieu. Et de son temps libre, il s'adonne à un de ses hobbies préférés, le bricolage. Côté vie intime, Jared navigue dans des eaux un peu plus troubles. Son parcours amoureux est marqué par un mariage avec une femme, Shanna Gardner, qu'il épouse en avril 2010. De cette union vont naître des jumeaux qui deviennent le centre de l'univers de leur papa. Shanna, de son côté, elle naît dans une famille riche, mormone. Ses parents se prénomment Sterling et Shelley Gardner. Ensemble, ils fondent Stamping Up, une entreprise basée dans l'Utah à Riverton. Ils vendent principalement des tampons, stamp en anglais veut dire tampon, mais ils vendent aussi d'autres produits de loisirs créatifs et de décoration. Et au passage, je suis obligée de faire cette petite parenthèse, mais en ce moment, mon délire, c'est le scrapbooking et je sais pas comment on appelle ça, mais le wax sealing. Alors, je te montre un petit extrait vidéo. Alors, soit je m'amuse à faire ça à la maison, soit je regarde ça pour dormir le soir. Donc, pareil, donne-moi des idées de vidéos pour dormir le soir, parce que là, je commence un peu à saturer. Je reprends mon affaire. Donc, les parents de Shanna sont plein aux as grâce à leur société Stamping Up. Shanna grandit donc dans un milieu très aisé, ses parents sont millionnaires, et c'est en 2019 que la jeune femme rencontre Jared grâce à la belle-sœur de Jared, donc la femme de son frère Adam. Shanna et Jared se marient dans l'Utah, ils emménagent ensuite dans le Connecticut pour quelques temps, dans une maison dont la valeur est estimée à environ 800 000 $. Je précise que tout comme Shanna, Jared est aussi mormon. Pour information, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, que beaucoup appellent l'Église mormone, c'est une communauté religieuse qui compte environ 15 millions d'adeptes. Elle voit le jour aux États-Unis au 19e siècle avec Joseph Smith, le prophète des Mormons. Bien qu'elle s'inspire de la Bible, l'Église mormone n'est pas une branche du christianisme, mais une religion à part entière. Les Mormons reconnaissent Jésus-Christ, mais ils diffèrent des chrétiens classiques sur plusieurs points, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ils sont très présents dans l'Utah, avec leur QG qui se trouve à Salt Lake City. Les Mormons sont connus pour leur dévouement, leur mission de 2 ans pour les jeunes et leur implication dans la communauté. Il y a aussi des Mormons en France, mais c'est surtout en Amérique qu'ils sont très nombreux. Donc on revient à Jared et Shana. Après la naissance des jumeaux Liam et Abby, la famille décide de retourner dans la ville qui a vu grandir Jared en Floride. Liam est atteint d'une maladie cardiaque et sur les recommandations des médecins, il doit vivre près de l'océan. C'est en 2014 que le couple rencontre de gros problèmes et suffisamment gros pour que ça mène à un divorce. Au départ, le couple prend de la distance, ils habitent une maison suffisamment grande pour faire chambre à part, c'est au départ la première solution qui s'offre à eux. Selon Jared, la raison de leur éloignement vient d'une infidélité du côté de son épouse. Shana aurait une liaison avec son coach sportif, mais du côté de Shana, c'est juste une question de sentiment, elle n'est plus amoureuse de son mari, c'est pourquoi elle veut divorcer. Alors je t'épargne le suspense, elle a bien trompé son mari avec un coach de CrossFit que son mari lui aurait trouvé en plus. Le pauvre Jared apprend la liaison via des emails que les deux échangent pendant des mois, et malgré le fait que Jared est prêt à pardonner cette infidélité, Shana veut se séparer. Le divorce est prononcé le 23 février 2015. Malgré les défis de la coparentalité après le divorce et les tensions qui peuvent exister dans sa relation avec la mère de ses enfants, Jared reste un père dévoué qui met toujours le bien-être de ses jumeaux en avant, en priorité même avant les siens. Et ce qui marque vraiment Jared dans le cadre du divorce avec Shana, c'est la volonté de son ex-femme de lutter pour la garde exclusive des enfants. Mais Jared ne se laisse pas faire. Il mérite la garde et même une pension alimentaire pour soutenir financièrement l'éducation des jumeaux. Il veut rester dans la maison familiale parce qu'il est moins riche que madame. Devant le tribunal, Shana affirme que Jared a menacé de s'approprier les comptes bancaires des enfants, ce à quoi Jared réplique qu'il est espionné, et c'est vrai. Un jour à son insu, Shana, tel Walter White, installe un traceur sur sa voiture et utilise des babyphones pour l'observer. Babyphone, c'est les espèces de petites caméras qu'on met normalement dans la chambre de bébé pour voir s'il respire toujours. Dans un email adressé à son avocat en date du 17 mai 2015, Jared écrit « Ça suffit, j'ai bien le droit dans ma propre maison de ne pas être constamment sous enregistrement ou sous surveillance par Shana ». Et d'ailleurs, cette histoire de vol de compte bancaire des enfants, ça ne donne jamais rien, donc c'était sûrement un mensonge de la part de Shana. Mais tout est bien qui finit bien. Shana et Jared trouvent un accord, ils partagent la garde de leurs enfants. En vrai, c'était pas si compliqué de trouver un terrain d'entente. La vie va offrir à Jared une nouvelle chance en amour avec Kirsten Vack, une jeune femme avec laquelle il match sur un site de rencontre. Comme quoi, Tinder, ça peut parfois marcher. Jared tombe si vite amoureux d'elle qu'il va la rejoindre en Caroline du Nord pour leur premier encart. Enfin, il va taper quand même 6 heures de route. C'est très romantique. C'est quoi la plus longue distance que t'as parcourue pour un date? Laisse un commentaire. Alors, pour ma part, j'ai descendu 7 étages et c'est déjà très bien. Faut pas trop m'en demander. Jared et Kristen s'aiment tellement que, ensemble, ils fondent une famille à Sainte-Augustine, toujours en Floride. Ils accueillent 2 enfants, Bexley et London, qui apportent une joie immense dans la nouvelle vie de Jared. Cette famille, plus ou moins recomposée, montre bien qu'on peut se reconstruire après un divorce. Jared est un homme de principe avec une priorité claire, le bonheur et la sécurité de ses 4 enfants. Avec sa nouvelle femme, Kirsten, il adore faire des activités manuelles, construire des meubles sur mesure, etc. Et en plus, il partage aussi la même foi qu'elle. Elle aussi est membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les mormones, quoi. Malgré une situation familiale assez complexe et des tensions avec son ex-femme, Shana, et son nouveau conjoint, Mario Fernandez Saldana, Jared n'est pas du genre violent ou toxique. Pour information, Shana et Mario se marient en 2015, et de son côté, Jared épouse Kirsten en 2017. Chacun s'épanouit de son côté avec un nouveau compagnon, une nouvelle compagnonne, bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. La suite des événements va totalement bouleverser les vies de tout ce beau monde, une soirée tragique qui va même affecter toute la Floride. Nous sommes le soir du 11 février 2022, Jared passe la soirée avec les jumeaux, Liam et Abby, et leur demi-sœur de 2 ans, Bexley. Ensuite, il ramène les jumeaux chez leur mère, Shana, il s'arrête pour acheter une glace à Bexley. Kirsten, la femme de Jared, déclare que ce soir-là, elle décide de rester à la maison avec leur autre fille de 6 mois seulement, la petite London. Sur le chemin du retour, Jared remarque un obstacle sur la route. Un pneu qui se trouve en plein milieu de la route. Il coupe le moteur de son véhicule sur Sanctuary Boulevard à Jacksonville Beach et il met ses warnings. Poussé par son instinct d'être humain qui est digne de ce nom, Jared s'arrête pour déplacer ce pneu qui gêne la circulation pour tout le monde et surtout qui pourrait être dangereux. Et c'est dans ce geste totalement banal que tout se joue. D'un coup, Jared est froidement abattu à bout portant, laissant derrière lui une scène de crime qui semble être soigneusement élaborée pour le piéger. À côté de sa voiture, son corps est retrouvé et témoigne de la brutalité de l'acte. Et le plus déchirant dans cette tragédie, c'est la présence de sa fille de 2 ans, Bexley, dans la voiture au moment du drame. La petite, témoin innocente de cette horreur, va résumer la scène avec ces mots d'enfant « Boum, 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 daddy on the ground, boum, 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 papa, par terre ». De son côté, Kirsten s'inquiète, son mari aurait dû rentrer vers 20h15, il ne répond plus au téléphone. Finalement, quelqu'un décroche un des appels de Kirsten, c'est un policier. Elle est convoquée au poste de police où elle peut récupérer sa fille, mais elle apprend la mort tragique de son mari Jared. Très rapidement, les enquêteurs arrivent sur place et commencent à rassembler les preuves, une tâche qu'il ne faut jamais prendre à la légère dans une affaire où chaque détail compte. Quand les policiers arrivent sur place, les feux de détresse clignotent encore. Le pneu, objet si insignifiant à la base, devient la pièce centrale de l'enquête, tout comme les jantes de la voiture et les empreintes trouvées sur les lieux. La balistique va également jouer un rôle crucial avec l'analyse des douilles retrouvées qui pourraient aider à retrouver l'arme du crime et donc le ou les tireurs. Et d'ailleurs, un petit point sur la balistique et pourquoi est-ce que les enquêteurs se basent sur elle pour résoudre des crimes. La balistique, c'est un peu comme la science des projectiles et de leur impact, surtout quand on parle d'armes à feu. Pour faire simple, quand quelqu'un tire avec une arme, la balle est en quelque sorte rayée, elle est marquée par le canon, un peu comme si le canon laissait des empreintes sur la balle. Et puisque chaque canon est unique, chaque trace est propre à une seule arme. C'est un peu comme si l'arme signait son tir, tel un peintre qui signerait sa toile. En examinant ces marques, les experts peuvent souvent dire avec quelle arme la balle a été tirée. Et c'est pas tout. Les policiers regardent aussi la scène de crime pour observer les douilles éjectées, parce que les armes aussi laissent des marques spécifiques sur les douilles. En comparant ces marques avec celles trouvées sur des douilles testées ou connues, les enquêteurs peuvent lier une douille ou une balle trouvée sur une scène de crime à une arme en particulier. Pour te donner un exemple, l'assassinat de JFK à Dallas en 1963, la balistique a joué un rôle crucial pour résoudre l'affaire. En examinant les balles et leur trajectoire, les experts en balistique ont pu déterminer d'où provenaient les tirs. Bon, j'ai toujours un doute sur celui qu'on accuse, mais bref. Revenons à notre enquête. Les policiers vont s'appuyer sur la technologie aussi. Grâce à l'analyse des caméras de vidéosurveillance des alentours, ils espèrent capturer un indice, un visage, un véhicule qui pourrait les mener aux personnes responsables. La question qu'on se pose à ce stade des investigations, c'est pourquoi Jared a été visé. Le mec n'a aucun ennemi connu, il ne trempe pas non plus dans des affaires bizarres, donc pourquoi lui ? D'après Mallory Boudin, premier amour de Jared, et aujourd'hui une amie très proche, Jared est un homme incroyable qui ne peut pas attiser la haine. Et même si ça n'a pas marché entre eux à l'époque, ils se sont séparés, elle et Jared sont restés très proches, ils sont devenus très bons amis. Au passage, amitié avec un ex, tu crois pas ? Laisse un commentaire. Il n'était pas comme les autres mecs que je connaissais au lycée, dit Mallory, il était très respectueux, c'était un vrai gentleman. L'enquête va se pencher sur plusieurs théories, à commencer par la plus évidente. D'après ce qu'on sait de la victime, est-ce que le meurtrier s'est trompé de cible ? Est-ce que Jared s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment ? Pendant plusieurs mois, la police va Sherlock Holmeser, mais il semble que rien ne bouge vraiment dans cette affaire. Tout ce qu'on a, c'est la diffusion d'images d'un pick-up. Les enquêteurs regardent en boucle les images de vidéosurveillance de la scène du crime et ils remarquent en effet un véhicule en particulier, un pick-up Ford modèle F50 de couleur foncée. On remarque aussi que ce pick-up est équipé d'un marchepied marron qui daterait de 2004 ou 2007. Et à l'arrière de ce pick-up se trouve une boîte à outils de couleur grise. La police diffuse une image de ce camion, de ce pick-up, et on demande à la population, quelqu'un a-t-il vu ce pick-up ? Si quelqu'un sait à qui il appartient, merci de nous passer un coup de fil. Les détectives de la police de Jacks Beach précisent au public que le véhicule pourrait être impliqué dans le meurtre de Jared Bridegan. Et l'enquête prend enfin une tournure décisive quand le nom d'un suspect émerge enfin. Qui est cette personne ? Quel est son rôle ? Son lien avec la victime ? Les questions se multiplient autour de lui et de ses possibles motivations. Les liens entre cet inconnu, la scène de crime et peut-être d'autres individus impliqués vont devenir le cœur de l'enquête. Un soir, comme les autres du mois d'août 2022, on est toujours à Jacksonville Beach, alors que la ville dort encore, la routine des patrouilles de police se retrouve bouleversée par un simple contrôle routier. Un homme qui s'appelle Henri Thénon se trouve au volant de sa voiture, il est arrêté pour excès de vitesse. Mais derrière ce motif de « on va te mettre une amende » se cache une réalité beaucoup plus perturbante. Cet homme est le suspect principal dans notre affaire de meurtre. On peut voir les officiers procéder à l'arrestation du conducteur Henri, un ami qui vous veut du bien, et on entend la voix d'un des officiers qui dit « c'est un suspect lié au meurtre à Jack's Beach ». Les policiers profitent de cette occasion pour interroger Henri sur le meurtre de Jared Bridegan. Cette arrestation ouvre la voie à des interrogatoires plus approfondis au sujet de sa possible implication. Et tu dois te demander pourquoi la police soupçonne cet homme. Pendant l'enquête, les autorités épluchent soigneusement les comptes bancaires de l'entourage de Jared et entre autres ceux de Mario et Shanna. Les enquêteurs remarquent des transactions financières très mystérieuses entre Henri et Mario. Ces transactions comprennent des chèques écrits par Mario à Henri, et je t'expliquerai la nature de ces transactions dans quelques minutes. Pendant l'arrestation d'Henri, la police est toujours en train de chercher activement un camion Ford F50, et comme par hasard, il est similaire à celui que Henri conduit. Donc ça fait beaucoup de coïncidences. Pendant l'interrogatoire qui suit cette arrestation, interrogatoire qui va durer un peu moins d'une heure, les détectives cherchent à creuser le passé d'Henri. Il parle des voitures qu'il a pu conduire, enfin c'est vraiment histoire de le mettre à l'aise. Et d'un coup, la conversation prend un tournant à 180 degrés. « Aujourd'hui, c'est le jour le plus important de ta vie », lui balance un des policiers. « Cette arrestation pour excès de vitesse, c'est une excuse, on t'a bien eu. » Et là, Henri commence à comprendre qu'il est dans des problèmes bien plus sérieux qu'un simple excès de vitesse. En même temps, si je me fais arrêter juste pour ça et qu'on m'emmène jusqu'au commissariat, je sais pas, je me poserai des questions. Henri, intelligent qu'il est, va tout de suite demander la présence d'un avocat. Et quand on invoque ce droit-là, la police n'est pas autorisée à continuer à poser des questions. Pourquoi demander un avocat aussi rapidement? Donc le Henri, il est sûrement pas innocent, et je ne parle pas de l'excès de vitesse. Puisque la police a suffisamment de preuves pour arrêter, au moins à titre provisoire, Henri Thénon, il passe 5 mois en détention. L'homme est accusé de meurtre au second degré, il est officiellement inculpé pour meurtre au mois de janvier 2023. Et cette arrestation ne sera rendue officielle que bien plus tard, pendant une conférence de presse. Le chef de la police de Jacksonville Beach, Jean Paul Smith, et la procureure d'État Melissa Nelson annoncent qu'une arrestation dans l'affaire Jared Bridegan a eu lieu. Donc le pneu, tout ça, c'était bien un piège qui était bien destiné à Jared. Henri va être reconnu coupable de conspiration à commettre un meurtre et de meurtre au second degré avec une arme à feu. Donc on ne sait toujours pas qui est ce Henri et quel est son lien avec la victime. C'est là qu'on va avoir un plot twist de malade. Je t'explique. La police découvre qu'entre le 4 janvier 2022 et le 16 février 2022, soit le jour du drame, 16 février, Henri fait partie d'un complot, d'une conspiration pour causer la mort de Jared. Au procès, la procureure ajoute cette phrase percutante. Nous savons qu'Henri n'a pas agi seul, il apparaît comme clair que quelqu'un connaissait l'itinéraire et l'emploi du temps de la victime. C'était planifié, réfléchi, et ce complot visait spécifiquement Jared. Fin de citation de la procureure. Alors qui sont les co-conspirateurs? La procureure ne le précise pas, enfin pas encore, même si je sais que tu t'en doutes à ce stade. Bien sûr, il y a un lien entre Henri et Jared, et les autorités vont finir par le révéler au public. Mario, on se souvient, hein, pas le plombier qui a besoin d'un champignon pour grandir, Mario, le deuxième mari de Shanna. Alors il se trouve qu'Henri est locataire d'un logement que Mario possède. En tout cas, il l'a été. Mario est donc la deuxième personne arrêtée dans l'affaire du meurtre de Jared. Et la troisième personne arrêtée, co-conspiratrice, tu l'as sûrement deviné, n'est autre que Shanna, la première femme de Jared et mère de ses deux premiers enfants. Shanna est arrêtée au mois d'août 2022 dans l'état de Washington. Alors qu'est-ce qu'elle foutait là-bas? Sa tentative de rester hors de Floride, bah, ça l'a pas menée bien loin. Elle qui voulait absolument éviter l'extradition. Mais c'est pas toi qui décide, Shanna, donc extradition au comté de Duval, où elle doit faire face à la justice. Officiellement, Shanna est arrêtée sur la base d'accusations impliquant qu'elle est une actrice clé dans un complot visant à assassiner son ex-mari. Selon les enquêteurs, des échanges d'argent suspects suffisent à éveiller les soupçons contre Shanna et Mario. Surtout qu'Henri avoue aux enquêteurs des détails précis sur le meurtre, détails qui relient Shanna à toute cette histoire. Shanna est interpellée sans incident chez elle. Le processus implique une coordination sous haute surveillance entre les autorités de l'État de Washington, où elle a essayé de prendre la fuite, et de la Floride. Les charges contre Shanna incluent le meurtre au premier degré, la sollicitation de meurtre au premier degré, la conspiration pour commettre un meurtre au premier degré et la maltraitance d'enfants. Cette dernière accusation est due à la présence de la fille de Jared dans le véhicule pendant le meurtre. Parmi les différentes raisons qui auraient pu causer la mort de Jared, on peut notamment évoquer l'appât du gain et des conflits autour de la garde des enfants. Et même si là on est déjà sur 3 co-conspirateurs et que ça fait beaucoup, tu verras que Shanna, Mario et Henry ne sont pas les seuls dans cette affaire. D'autres personnes y sont mêlées, je t'en parle en fin de vidéo. L'arrestation de Shanna, l'ex-femme de Jared, et les accusations portées contre elle et son nouveau compagnon Mario propulse cette affaire sous les feux des projecteurs. Et la grande question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Quel est le mobile ? Jared et Shanna ont refait leur vie, chacun de leur côté, ils se sont mis d'accord sur une garde partagée, tout semblait aller plutôt bien. Mais en réalité, non. Les enquêteurs exposent des preuves accablantes qui prouvent que le divorce entre Shanna et Jared était probablement l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Le mobile se dessine petit à petit, avec pour sujet principal, mais pas unique, la lutte pour la garde exclusive des jumeaux. D'après un témoin, Mario aurait dit à Shanna « Ce serait mieux si tu avais le contrôle total des enfants ». Et d'ailleurs, 7 mois après le meurtre de Jared, Shanna et les jumeaux s'installent à West Rachel, dans l'État de Washington, dans une maison d'une valeur $1 million, maison achetée par l'entreprise des parents de Shanna. Donc tu comprends mieux maintenant pourquoi après son arrestation, elle est extradée vers la Floride. En fait, elle s'était barrée dans un autre État, comme si la justice n'avait pas de frontières au sein d'un même pays. Dans le cadre du procès, Shanna est soutenue par un avocat de renom, José Baez. Il est d'ailleurs connu pour la défense de Casey Anthony, et là je suis obligée de faire une toute petite parenthèse, cette affaire tu la connais déjà peut-être, elle a été très très médiatisée, et il y a eu plusieurs documentaires de faits, alors pas sur Netflix malheureusement, mais sur d'autres plateformes. L'affaire Casey Anthony, c'est la disparition à Orlando en Floride de Kelly Anthony, une petite fille âgée de seulement 2 ans. Au bout d'environ 1 mois, son corps est retrouvé près de la maison familiale, sa mère Casey Anthony est accusée d'être responsable de son meurtre en 2008. Le procès a lieu en 2011, et écoute bien parce que c'est la partie qui nous intéresse et la raison de cette parenthèse obligatoire, malgré des preuves, malgré des allégations de négligence de Casey, la maman, elle est acquittée de meurtre, de maltraitance d'enfant et d'homicide involontaire. Elle sera reconnue coupable, mais seulement de faux témoignages. Je ne sais pas qui est cet avocat, mais si un jour t'en as besoin, appelle-le. Enfin non, du coup, ne l'appelle pas. Parce qu'il pourrait te sortir de n'importe quelle affaire, je pense. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo pour te raconter en détail l'affaire Casey Anthony, laisse un commentaire. De toute façon, je pense que je vais le faire rien que pour comprendre comment c'est possible qu'elle ait été acquittée. Donc l'avocat de Casey Anthony, aujourd'hui, défend Shanna Gardner. Et il s'exprime au sujet de sa cliente. Elle n'a jamais rien vécu de tel, miskina, et contrairement à ce que certains peuvent croire en se basant sur ce qui s'est passé au tribunal aujourd'hui, elle n'a jamais eu de problème avec la loi auparavant. Être accusée de quelque chose d'aussi horrible et si sérieux où le gouvernement essaie, pour ainsi dire, de vous tuer, cela ébranlerait n'importe qui et elle ne fait certainement pas exception. Alors lui, quand il a fait ses études d'avocat, il a, je crois, pris option théâtre, j'en suis sûr. Comment ça, le gouvernement veut tuer ta cliente ? Le gouvernement veut juste l'envoyer en tôle s'il s'avère qu'elle a bien comploté pour tuer son ex-mari. Calme-toi la défense. Du côté de Mario, le mari de Shanna, co-conspirateur présumé, une requête de 63 pages va être déposée par son équipe juridique. Il demande au juge de disqualifier le bureau du procureur de l'État et Melissa Nelson qui représente ce bureau pour cette affaire. Et ce qu'elle dit cette requête en gros, c'est que le bureau du procureur a trop d'informations. Alors ça paraît chelou, mais je t'explique. L'équipe juridique de Mario soulève des préoccupations concernant la fuite de communications privées et confidentielles qui incluent des textos, des emails, des messages vocaux échangés entre Mario et ses avocats. Ces communications auraient été accidentellement mises à disposition via une plateforme partagée et utilisée par les procureurs, donc la team opposée, quoi. Et bien sûr, ça aurait compromis le caractère confidentiel requis par le privilège avocat-client. L'équipe de la défense demande que ces éléments soient exclus du procès pour préserver l'équité de la procédure. En gros, c'est comme si Mario avait été espionné par mes gardes, par le procureur en pleine discussion autour de sa défense avec ses avocats. Cette affaire est marquée par des débats intenses sur cette fuite d'informations privées liées au privilège avocat-client, mais pour accuser notre trio et potentiellement les envoyer en prison pour leur crime, l'enquête va s'appuyer sur des indices concrets comme des relevés téléphoniques et des transactions bancaires. Donc, ok, le procureur a entendu des trucs qu'il n'aurait pas dû entendre, mais en vrai, ils n'ont même pas besoin de ces éléments, ils ont des preuves, ils ont toutes les preuves nécessaires. Et ces preuves mènent à une théorie de conspiration très probable soutenue par le bureau du procureur. Shanna, Mario et Henri sont tous impliqués. Henri connaît très bien Mario, comme je te le disais plus tôt, c'était son locataire. Il a vécu dans une maison qui appartenait à Mario dans le nord-ouest de Jacksonville Beach. Et tu te souviens, un peu plus tôt, je te parlais de transactions étranges entre Mario et Henri. Mario va lui faire 3 chèques sur l'année 2022. 2 000 $ le 28 mai, 3 000 $ le 29 mai et 5 000 $ le 4 avril. 5 plus 3 plus 2, si je sais bien compter, ça fait 11 000 balles. Ça fait 11 000 balles le meurtre. L'enquête découvre environ 70 interactions entre les deux hommes entre février et juin 2022. Les relevés téléphoniques des échanges entre eux attestent de 35 appels, ce qui ajoute de la matière à la piste de la préméditation. À moins que vraiment Mario, il kiffait son ancien coloc au point de l'appeler à ce point et de lui donner 11 000 balles. Alors, c'est possible aussi. L'entrée de Shanna dans la salle d'audience est particulièrement marquante. Elle a un sourire un peu bizarre et surtout inexplicable quand on sait quelles accusations pèsent sur elle. Shanna débarque vêtue de la fameuse combinaison orange des prisonniers américains. Elle garde le silence, elle laisse son avocat plaider non coupable en son nom. Le juge décide alors que les prochaines audiences de Shanna se tiendront conjointement avec celles de Mario. Ils font tous les deux face à des accusations similaires et tous les deux plaident non coupable. C'est beau l'amour. Il y en a qui tapent 6 heures de route, il y en a qui tuent pour toi. Pendant ce procès, qui promet d'être long, les procureurs demandent la peine capitale pour les deux accusés, Shanna et Mario. Henri, quand il est arrêté pour excès de vitesse, il avoue son crime et en échange d'un deal, il fait des aveux complets. Ce marché, ce deal qu'il passe avec le procureur, consiste à ce qu'il plaide coupable de meurtre au second degré et il devient le témoin clé dans le procès de ses co-conspirateurs. Même s'il a tiré sur la gâchette, il n'est pas le cerveau de l'opération. Donc ses charges sont bien plus légères et on l'inculpera aussi de maltraitance envers un enfant, puisque la balle destinée à Jared aurait pu atteindre sa fille qui était dans la voiture au moment du meurtre. Henri Thénon est toujours en attente de sa sentence. De leur côté, Shanna et Mario risquent donc la peine capitale, puisque oui, en effet, la peine de mort est toujours en vigueur en Floride. Le dernier condamné dans cet état, c'est Michael Dwayne Zack, troisième du nom, exécuté le 3 octobre 2023. Et comme si l'affaire Jared Bridegan n'avait pas connu assez de rebondissements, on a une nouvelle révélation. Deux autres individus, dont un ancien officier de police réserviste de l'armée reconverti en criminel, serait impliqué dans le complot visant Jared. Je t'en dis plus en conclusion de cette vidéo. 2 ans après le meurtre de Jared, son ex-femme Shanna et son nouveau compagnon Mario comparaissent devant le tribunal de Jacksonville en Floride sous le regard de la veuve de Jared. Et d'ailleurs, Kirsten est très présente pendant la procédure, pendant le procès. Elle est profondément impliquée et elle exprime son désir de justice pour Jared et leur famille. Au tribunal, elle déclare que ses interactions avec Shanna l'ont vraiment mise mal à l'aise juste après le meurtre. Elle explique « Quand Shanna a demandé l'acte de décès, je n'étais pas surprise. Elle demandait beaucoup de choses et je pense que de mon point de vue, c'était juste pour causer encore plus de tort. » Et d'ailleurs, Kirsten souhaite que les enfants de Shanna et Jared ainsi que les siens soient réunis, même si Shanna est impliquée dans le meurtre de Jared. Kirsten veut réunir les enfants dans le but de les protéger tous des traumas du procès et de l'ambiance oppressante autour du meurtre de leur père. Elle exprime le souhait que ses enfants puissent rester en contact avec leurs demi-frères et sœurs pour rester soudés malgré les circonstances très difficiles. Kirsten décrit d'ailleurs la situation comme particulièrement douloureuse. Les jumeaux sont isolés et gardés à distance par leur mère et leurs grands-parents. Un des problèmes de ce procès, qui est toujours en cours, en dehors du retard considérable qu'il prend, c'est que chaque camp s'accuse mutuellement d'avoir engagé Henri Thénon. Shanna accuse Mario, Mario accuse Shanna. Malgré les obstacles, les proches de Jared sont déterminés à obtenir justice. Adam Bridegan, le frère de la victime, est convaincu que la vérité éclatera au grand jour, on aura le fin mot de l'histoire et justice sera rendue. Donc le procès est toujours en cours, de nouvelles audiences sont prévues pour bientôt, audiences au cours desquelles les avocats de Shanna vont chercher à obtenir sa libération sous caution. Et de leur côté, les procureurs se préparent à dévoiler l'intégralité de leur dossier contre le couple accusé, et notamment des documents qu'on attend de la part de deux sociétés, Walmart et Publix. Walmart, c'est un supermarché, un genre de Carrefour, et Publix, c'est plutôt un hypermarché slash pharmacie. Ces documents, qui sont probablement des images de vidéosurveillance, des tickets de caisse, devraient permettre de reconstituer certains des déplacements de Shanna dans les jours et les semaines précédant le meurtre. je sens qu'on n'est pas au bout de nos plot twists. Le fait que 5 personnes soient potentiellement impliquées dans la mort de Jared montre que cette conspiration, cette embuscade mortelle, est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. Et pour compliquer encore les choses, on va parler d'un mobile potentiel, l'argent. Donc je te disais un peu plus tôt qu'un des mobiles probables, c'était la garde exclusive des enfants. Donc on sait tous que le divorce entre Shanna et Jared a été ou en couleur, disons. Mais puisque l'affaire est encore en cours, le mobile n'est pas encore confirmé. Et surtout, il est possible qu'il y en ait plusieurs. Quand on sait que Shanna vient d'une famille pleine aux as, on se demande pourquoi faire tuer son ex-mari serait un mobile financier pour elle. Et voici la réponse. La fiducie, en anglais, trust. Alors pour nous, français, c'est difficile à comprendre. On n'a pas ça chez nous, mais en gros, une fiducie, c'est une somme d'argent qu'on laisse à une personne sous condition. En général, enfin souvent, c'est des parents fortunés qui mettent une somme de côté pour leurs enfants, enfants même adultes, enfin peu importe. Dans notre affaire, visiblement, la trust dont il est question, la fiducie, est laissée par les parents de Shanna, pour Shanna bien sûr. Et la condition, c'est qu'elle n'ait pas de problème juridique avec Jared, son ex-mari. Si les conditions sont remplies, et parfois ces conditions sont avec une limite de temps, genre jusqu'à telle date, par exemple j'imagine la majorité des enfants, donc non seulement Shanna peut empocher l'argent, et en plus Mario peut en profiter aussi, donc ce mobile serait valable pour Shanna mais aussi pour Mario. Une semaine après la mort de Jared, son certificat de décès apparaît soudainement comme par magie dans le dossier de divorce de Shanna, et ce document pourrait lui permettre d'accéder à l'argent de papa et maman. Avant le drame, Shanna voulait quitter la Floride avec les enfants, avec les jumeaux, mais elle ne pouvait pas le faire librement à cause des règles du divorce qui nécessitaient l'accord de Jared ou une décision judiciaire. Après sa mort, ces restrictions tombent, Shanna peut alors déménager avec ses enfants où bon lui semble, et elle obtient au passage le contrôle total de l'argent papa et maman. Cette affaire est incroyablement complexe, on a plusieurs mobiles potentiels, plusieurs personnes impliquées, dont certaines avec des motivations à éclaircir. À chaque nouvelle audience, des nouveaux éléments sont dévoilés, comme par exemple des preuves GPS qui montrent la préparation du meurtre, même la répétition du meurtre, genre un peu comme une pièce de théâtre. D'après des relevés GPS, Henri aurait parcouru l'itinéraire du meurtre 2 fois dans le mois précédent le drame. Et lors de cette funeste répétition, Henri quitte son domicile, il se dirige vers Jacksonville Beach, ensuite il suit l'itinéraire que Jared emprunte pour rentrer chez lui dans le comté de St. John's après être passé chez Shanna. Donc là, en l'occurrence, on sait que c'était pour déposer les enfants. Pour conclure, plusieurs choses importantes. Et on commence, comme promis, par ce que j'ai trouvé sur les 2 autres personnes impliquées dans la mort de Jared. Enfin, notamment une des personnes. John Biggerstaff, 56 ans, ancien policier. Alors lui, tu vas pas me croire. Cet homme est un ancien policier qui a servi dans la Navy pendant 22 ans. Et il est aussi ancien détenu. Il a passé quelques mois derrière les barreaux pour trafic de drogue et trafic sexuel, rien que ça. Fier échangiste avec sa femme Maria, John serait impliqué dans la mort de Jared à travers, encore et toujours, Mario. Mario rencontre la fille de John au lycée. Ils sortent ensemble pendant un moment, et après leur rupture, Mario et John restent en bons termes. Ils deviennent même potes de la salle de sport après que John quitte la Navy. Il se trouve aussi que John est l'heureux propriétaire d'une arme calibre 10, le même type qui a servi à tuer Jared Bridegan. Le soir du meurtre, il se trouve que, comme de par hasard, le téléphone de John est éteint, tout comme celui de, tu l'auras deviné, Mario. Quand on interroge John sur ce qu'il faisait le soir du drame, aucune idée, il ne se rappelle pas. Au mois de mai, soit 3 mois après le meurtre, des textos entre Mario et John sont supprimés. Enfin, tous les messages, les conversations sont supprimées. Pourquoi ? John ne donne pas de réponse. Alors on n'a pas les SMS, du moins pas encore, mais on a des relevés téléphoniques qui montrent qu'avant et après le meurtre, les conversations entre tous nos co-conspirateurs se multiplient considérablement. Surtout les conversations téléphoniques entre John et Mario. À ce jour, John n'est pas inculpé, il n'a pas été arrêté, l'enquête suit son cours. Je pense qu'on va finir par l'arrêter parce qu'il y a vraiment trop d'éléments qui pointent le doigt vers lui. Concernant la 5e personne impliquée ou potentiellement impliquée, malheureusement on n'a pas encore d'informations, mais ça ne saurait tarder, donc je te mettrai une mise à jour en description ou en commentaire épinglé. Aujourd'hui, Kirsten Bridegan souhaite transmettre l'héritage de Jared afin qu'il ne soit jamais oublié. Sur Instagram, elle crée un compte Justice pour Jared en s'adressant à des médias à travers tout le pays. Elle s'est notamment investie dans la création d'une initiative de soutien pour les enfants confrontés à des situations traumatisantes similaires à celles vécues par sa fille Bexley lors du meurtre. Kirsten crée la Bexley Box. C'est un projet qui a pour ambition de fournir des articles de confort et de première nécessité aux enfants qui se retrouvent dans des postes de police sans leur tuteur, sans leurs parents. Sa fille Bexley a dû attendre dans un commissariat sans le soutien de sa famille et sans accès à des biberons, à des couches, quand son père est mort. Pour expliquer son projet, Kirsten souhaite transformer le traumatisme en une action positive qui pourrait aider d'autres petites filles ou petits garçons dans des situations similaires. Et c'est à travers la fondation Bridegan que Kirsten s'efforce de propager cette idée en distribuant des Bexley Box à divers postes de police de la région et aussi dans tout l'état de Floride. Le frère de Jared, Adam, se souvient de lui en ces termes. « À bien des égards, je l'admirais comme père et comme mari, juste par la façon dont il traitait non seulement sa femme, mais aussi ses enfants. La liste est longue en ce qui concerne le nombre de vies qui ont été brisées par cette tragédie et nous souffrons tous. Il n'y a pas de réponse. Nous avons besoin de ces réponses. » Alors, je vais terminer en freestyle avec deux éléments que, personnellement, je trouve importants. Tu as remarqué que sur certaines photos, Shanna est tatouée, et alors son tatou artiste a témoigné. Je ne sais pas qui exactement dans le salon, je ne sais pas si c'est la personne qui lui fait ses tatouages ou si c'est quelqu'un qui travaille là-bas. Je pense que c'est la personne qui lui fait les tatouages, mais cette personne a souhaité pour l'instant rester anonyme. Et apparemment, Shanna lui aurait un jour demandé si elle connaissait, elle aurait dit « Je veux faire taire mon mari, est-ce que tu connais quelqu'un pour m'aider à faire taire mon mari ?» ou mon ex-mari. Je ne sais pas quelle crédibilité on peut donner à ce témoignage. Je pense qu'on peut donner une sérieuse crédibilité. Pour moi, aller chez un tatoueur et se confier, c'est un peu comme aller chez le coiffeur et raconter sa vie. Moi, je raconte ma vie à notamment mon ongliste, enfin, prothésiste ongulaire, mais je l'appelle mon ongliste. Je ne sais pas si toi, tu es le genre de personne qui fait ça aussi, qui raconte ta vie quand tu vas chez le coiffeur, chez ton tatoueur. Je pense que ça dépend évidemment de la proximité qui s'établit entre vous, mais voilà. Pour moi, ça ne me paraît pas incohérent, pas crédible ou quoi. J'y accorde de la crédibilité tant qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire. Et le dernier élément, bon, c'est plutôt un fun fact, mais j'étais en train de chercher des informations complémentaires, notamment sur Shanna et sur ce qu'elle faisait comme travail, parce que je n'ai pas cette réponse. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle faisait comme travail. Après, j'imagine qu'elle ne travaillait pas, qu'elle était mère au foyer, puisque ses parents sont pétés thunes, ils lui ont offert une maison à 800 000 dollars quand elle était avec Jared, et puis une autre maison à 1 million, il me semble, si je ne me trompe pas. Je viens de filmer la vidéo, donc je devrais m'en rappeler, mais bref. Mais il se trouve que pendant un moment, Shanna a été pâtissière. Donc je tombe sur le blog d'une Floridienne, hein, visiblement, et j'avais un peu l'impression d'être avec des copines qui me racontaient un fun fact. Enfin, pas si fun du coup, mais la personne qui écrit le blog, elle explique qu'un jour elle était avec sa copine et elle était en train de discuter, papoter, et puis elle découvre l'affaire Jared Bridegan et l'implication potentielle de son ex-femme Shanna. Et donc à la période où Shanna était pâtissière, elle aurait cuisiné un gâteau d'anniversaire que je te montre en photo, gâteau d'anniversaire pour la blogueuse qui lui a été offert par son amie, donc bref. Donc voilà, ce gâteau, enfin le glaçage de ce gâteau est censé représenter la plage, le bhar. Bon, bah dis-moi ce que t'en penses. Apparemment il était délicieux. Donc bon, des fois faut pas forcément critiquer l'aspect visuel. Apparemment, il était très bon. Voilà, je suis à court de fun facts, de révélations choc, et je te mettrai ce que je découvre d'autres en description, en commentaire épinglé, parce que cette affaire est... on n'a pas le fin mot, mais bon, pour moi, c'est pas du non résolu, parce que on sait quand même, on a plein de preuves. Déjà, Henri, son implication, elle est claire. Donc voilà, je pense que Shanna et Mario vont... Enfin, leur tête vont sûrement tomber. Peine de mort, je ne sais pas. On verra. Pour... Au contre, la peine de mort, du coup, laisse un commentaire. Merci, vraiment, merci du fond du cœur aux personnes qui restent jusqu'à la fin. Ça représente beaucoup pour moi, ça aide vraiment la chaîne. Merci aux personnes qui prennent le temps de laisser un commentaire, de mettre un like. Et pour les personnes qui ne sont pas abonnées, abonne-toi, non, c'est gratuit. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.